François Marquis, bonjour.
Bonjour.
Content de te revoir.
Ben, content
d'abord, je te le dis, puis c'est un compliment, tu m'as l'air un petit peu plus reposé. Ça se peut-tu, ça?
Oui, c'est la magie d'une semaine de vacances, une vraie semaine de vacances.
Alors, tu publies en collaboration avec Marie Lambert-Chan, « Mes carnets de pandémie ». Alors, c'est un livre, c'est quoi, c'est tes réflexions, si on peut dire?
Oui, mais c'est surtout le quotidien. C'est un livre qui a été conçu et écrit au jour le jour. C'est que c'est vraiment, on suit la pandémie de l'intérieur, mais effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on peut pas approcher en entrevue parce que ça serait trop compliqué en 3 minutes.
Ouais.
Et là, on s'est fait plaisir. C'est qu'il y a beaucoup de réflexions là-dedans sur des enjeux qui ont peu ou pas été approchés parce que dans le médium électronique, c'est très difficile de le faire à cause des contraintes de temps.
Je vais essayer de prendre un peu de recul avec toi, OK? Est-ce que tu penses que la pandémie a fait de toi un meilleur médecin?
Elle a fait un médecin différent et oui, moi, j'étais un docteur de peu de patients. Moi, je m'occupe habituellement d'une dizaine, d'une quinzaine de patients par jour.
Dans les
soins intensifs. Et là, ça m'a donné une grande perspective vraiment de l'épidémiologie, de traiter une population et de l'impact des messages, des différents messages sur la santé d'une population. Moi, j'étais un docteur qui est habituellement toujours concentré dans la personne, l'unique, le moment. Mm. Et là, ça m'a permis de prendre un recul pour considérer travailler sur la prévention, travailler sur la population.
Est-ce que ça a fait de toi une meilleure personne, un meilleur être humain, à travers l'émotion que tu as croisée au fil du temps, c'est-à-dire les patients que tu as soignés, certains sont malheureusement décédés, les familles à qui tu as dû annoncer la nouvelle ou avec qui tu as dû discuter pour leur dire « ça s'en vient malheureusement », est-ce que ça fait de nous une meilleure personne quand on passe au travers de ces moments-là?
Ça fait de nous, encore une fois, quelqu'un de très différent. J'ai vécu des choses avec mon équipe qui, oui, va me rendre une meilleure personne parce que plus complète. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, on a fait des choses qu'on ne penserait pas faire de notre vivant. Est-ce que c'est meilleur? Je ne sais pas. C'est différent, mais c'est plus complet. Et en rétrospect, c'est encore quelque chose de difficile, mais je suis content. Personnellement de ces expériences-là. Je m'en sors grandi, je crois. Je m'en sors gratifié de ça.
Tu as toujours, à travers les entrevues qu'on a faites, tu es quelqu'un qui est en contrôle de ses émotions. Est-ce que tu as eu des moments où tu as craqué? Mais craqué, je veux pas dire effondré, dysfonctionnel. Craqué où tu te retrouves tout seul dans un coin, puis les larmes te viennent aux yeux ou tu te mets à pleurer parce que ce que tu viens de vivre, c'est juste comme trop fort.
Oui. Souvent, nous, dans l'action, on fait ce qu'on a à faire parce que si on est dans l'émotion, on n'est pas utile pour le patient, on n'est pas utile pour la famille. Quand on prend un recul, quand on prend un moment de pause, et c'est important de les prendre, oui, des fois, ça remonte comme une fontaine. Des fois, ça fait juste passer, on pleure, puis c'est correct, on sèche nos larmes, on retourne travailler. Des fois, ça demande un réseau de support, puis moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une épouse fantastique, une famille, des amis, et là, faut pas garder ça dedans. Et je pense que un médecin qui pense qu'il est capable de faire fi de ses émotions s'enligne dans une pente dangereuse. Faut les accepter, c'est comme la peur. Hein? On parle beaucoup de la tristesse, on parle beaucoup de toutes sortes d'émotions, mais la peur, elle est là.
La peur, c'est-à-dire?
Mais quand la première fois, on le sait, là, en médecine, on a toujours des moments où on est en contact avec des situations dangereuses, des patients infectés, des bactéries mangeuses de chair, c'est ça. Mais c'est des moments très ponctuels, alors que là, c'était jour après jour, c'est une vague. Puis on savait qu'après notre 100e patient COVID, il allait en avoir un 101e dans une zone hautement contaminée. Et le fait d'aller volontairement le matin se lever, de marcher vers l'hôpital, parce que moi, je marche pour me rendre à l'hôpital, puis de dire, « Hey, je m'en vais vraiment vers le trouble. Là. Je m'en vais dans à peu près un des endroits les plus dangereux au point de vue contamination qu'il y a au Québec présentement. » Et c'est quelque chose de spécial de marcher. Et j'imagine que c'est un peu ce que les pompiers vivent quand il y a un brasier puis qu'ils disent « OK, mais là, je peux pas arroser de loin, je dois rentrer. »
Ou les soldats qui s'en vont au front.
Même chose. Je pense que c'est la même chose.
Tu t'en vas au-devant des coups, au-devant des balles.
Oui, et ça, c'est quelque chose, c'est une connaissance théorique, même si on l'affronte quand même au quotidien, mais ça avait une ampleur, c'est ça, là. Et la peur qui vient nous chercher, en tout cas, moi, je l'ai vécu, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vécu, mais moi, je l'ai vécu et il a fallu passer par-dessus, puis je suis content d'être passé par-dessus.
Y a-tu des moments où tu t'es arrêté en chemin et t'as pris une grande respiration avant de continuer? T'as-tu des moments de doute où tu t'es dit, coudonc, est-ce que c'est pas un peu fou ce que je m'en vais faire là? Ou...
Pas de moment de doute, mais il y a eu des moments de préparation et je dois dire que j'avais un plan B et un plan C s'il m'arrivait quelque chose pour mes proches, là, spécialement pour mon épouse. Si je tombais malade, il y avait de quoi qui était prêt. C'était une réalité, là, je veux dire, il ne fallait pas le nier. C'était une réalité.
Tu viens de parler de Maisonneuve Rosemont qui a été un lieu très important de la bagarre, du combat qu'on a mené contre la COVID. Dans ton livre, tu parles du fait que Maisonneuve Rosemont était peut-être pas équipée pour être ce champ de bataille que l'hôpital est finalement devenu. Comment je te dirais bien ça? Parce que moi, j'ai de la misère à imaginer Maisonneuve Rosemont qui n'est pas justement un endroit important dans cette bagarre qu'on a vu. On t'a tellement vu, puis on a tellement vu à quel point Maisonneuve Rosemont était important dans cette guerre-là contre la COVID. J'ai de la misère à imaginer retirer Maisonneuve Rosemont de ce combat-là. Et pourtant, à cause de la vétusté des installations, il n'aurait pas fallu que ce soit un hôpital COVID?
Des fois, hein, il y a des hôpitaux où on prenait l'analogie de la guerre. Il y a toujours des fois... Un petit groupe un peu mal équipé qui fait une grande chose ou qui gagne une grande bagarre dans la guerre, puis qu'on se dit, il n'aurait jamais dû gagner, ça n'aurait jamais dû fonctionner. Le plan, à la base, n'était peut-être pas l'idée du siècle. J'ai vécu un peu ça à Maisonneuve. Quand on s'est fait annoncer qu'on allait recevoir nos patients assez rapidement, on était prêts. Tout ce qu'on avait pu faire, on l'avait fait. On a été extrêmement surpris d'être les premiers envoyés un peu au front. On s'attendait à être plus en support. Je me rappelle, on s'est tous regardés en disant « Sont-tu sérieux, là? On est les premiers avec Sacré-Cœur puis l'Hôpital Général Juif. Ça va être nous autres, là. » OK. Bon. On a embarqué parce qu'il fallait le faire, mais on a tous été très, très, très surpris. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Oui. Il y a eu des conséquences à ça. Hein. On voit dans les vagues subséquentes où on a commencé à impliquer les autres hôpitaux plus de façon proportionnelle, où tout le monde était activé de façon simultanée. Je ne sais pas, moi, j'avais pas toutes les informations. Est-ce qu'il n'y avait pas assez d'hôpitaux de près? Est-ce que Maisonneuve a été victime du fait qu'on était vraiment prêts, nous autres? Est-ce qu'on a voulu protéger les grands centres universitaires en se disant on va les garder en soupape de sûreté? Je ne sais pas, je faisais pas partie de cette décision-là, mais il y avait des caractéristiques physiques à Maisonneuve-Rosemont qui, d'emblée, allaient nous rendre la vie très difficile, et on l'a vu, là.
Mais est-ce que tu penses qu'avec le recul, puis c'est pas encore fini, tu as raison de le dire, mais avec le recul, tu es sans doute fier de ce que vous avez réalisé comme hôpital et comme équipe, ça je pense que...
Incroyablement fier.
Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'avec le recul, c'était une bonne ou une mauvaise décision?
C'est tellement facile une fois que les choses sont passées. C'est certainement la chose qui n'avait pas été considérée, c'était l'impact sur les équipes, les démissions, les départs. Je pense que ça, dans le plan, si on avait pu dire au gouvernement, vous savez, il va avoir ça comme impact sur le personnel, peut-être que la décision aurait été différente. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu.
Il y a eu un coût humain très important, c'est ça que tu nous dis.
Incroyable, incroyable. Et qu'on paye encore pour aujourd'hui. Et je pense que ce coût humain-là est en grande partie tributaire des choix de la première vague.
Mais en même temps, François, puis je vais te laisser là-dessus, vous avez un capital de sympathie. Je pense que vous pouvez utiliser maintenant pour pousser dans le dos du gouvernement pour qu'il fasse les travaux qui sont nécessaires. Je pense qu'il y a une espèce de rapport de force, là. Je m'excuse d'utiliser ce langage-là, là, mais je pense que vous avez un rapport de force qui, je l'espère, va pouvoir vous permettre de faire avancer les décisions puis les investissements, là. Es-tu d'accord avec moi?
Ce que je suis absolument d'accord, c'est qu'effectivement, on a fait notre point qu'on était capable, qu'on méritait d'être aidé. J'aimerais beaucoup mieux que ça continue comme c'est là, non pas comme un rapport de force, mais comme un accompagnement. Je pense qu'ils ont compris. Faut juste que personne n'oublie dans les prochaines années, parce que ça va être tentant au fur et à mesure que les mois vont nous distancer de la pandémie, d'oublier que Maisonneuve est un projet prioritaire.
François Marquis, médecin, chef des services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Si vous voulez lire ses réflexions au fil du temps, au fil de ce combat contre la COVID, mes carnets de pandémie qui sont publiés aux éditions du journal. Lâche pas, François.
Merci.
Merci beaucoup. On s'en va à la pause. Au retour, la rainette Faugrillon. Et Larry va nous préparer un petit chant de rainette pour le retour. Ah ben, t'sais.